Éric Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi un certain nombre d'artistes chinois se sont-ils retrouvés à Paris dans les années 20 ?
Dès la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, les intellectuels chinois se rendaient compte qu'ils étaient arrivés dans une période de crise très profonde, avec la fin du régime impérial en 1911, et il fallait réinventer toutes les institutions, moderniser le pays, c'était le grand mot d'ordre de cette époque, et cela concernait finalement tous les intellectuels, qu'ils soient des hommes politiques, des écrivains et bien sûr des artistes. Alors, pour ces artistes, moderniser la Chine, cela voulait dire apprendre à peindre, à sculpter d'une autre manière, et c'était la méthode occidentale qui s'imposait. Les artistes ont d'abord souvent fait un séjour au Japon, et partis au Japon pour apprendre à peindre à la manière occidentale, ils ont rencontré des professeurs japonais qui avaient été formés en Europe, et très souvent à Paris. Et si bien que, au lendemain de la Première Guerre mondiale, de très nombreux artistes chinois sont arrivés en France.
D'accord, donc en fait, c'est aussi une manière de moderniser la culture chinoise et d'asseoir la Nouvelle République.
Alors, c'est certain que tout ce mouvement était lié à des réformes très profondes, réformes dans l'éducation, on sortait du système mandarinal et on ouvrait évidemment l'éducation à toutes sortes de techniques, y compris dans le domaine artistique. Et ce n'est pas par hasard que les nouvelles institutions républicaines, la Jeune République, a aidé ces artistes à partir pour la France.
D'ailleurs, il n'y a pas que des artistes qui sont venus étudier en France, il y a eu aussi des étudiants ouvriers, et parmi eux, Chou Enlai et Deng Xiaoping.
Alors évidemment, c'est très très célèbre. Il y avait parmi ces étudiants ouvriers, beaucoup étaient basés à Montargis, et ils ont appris aussi en contact donc avec la France, eh bien ce qui allait devenir finalement le mot d'ordre de toute leur vie, la construction du socialisme dans leur propre pays. Alors évidemment, Zhou Enlai, c'est toute la période maoïste, et puis Deng Xiaoping, c'est toute la période de l'ouverture. Cela permet de mesurer l'influence de ce petit nombre finalement d'intellectuels chinois qui sont venus en France, mais qui ont eu un rôle déterminant pour l'histoire de la Chine au XXe siècle.
Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le mouvement travail-études et la société franco-chinoise d'éducation ?
Alors, le mouvement travail-études, c'était une initiative qui était principalement due à un personnage qui avait lui-même étudié en Europe et qui s'appelait Tsai Yuanpei. Le deuxième qui fut ministre de l'éducation, recteur de l'université de Pékin, et qui donc a eu une influence considérable sur toute la pédagogie de cette époque. Lui-même croyait que l'esthétique était un enseignement fondamental et que les beaux-arts pouvaient se substituer à la religion. Donc c'était tout un programme. Il y a eu un autre artisan qui s'appelle Li Shizhang, et ces deux personnes ont ensemble lancer ce programme qui a été essentiel parce que parmi les autres destinations qui s'offraient aux étudiants, il y avait l'Amérique, les États-Unis, il y avait d'autres nations européennes, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Et vraiment, ce mouvement, il a permis d'orienter un nombre important d'intellectuels, de jeunes intellectuels chinois vers la France, y compris des gens qui n'avaient pas forcément les moyens de voyager grâce à ce programme étudiant ouvrier.
Alors, qui sont les artistes qui séjournèrent en France ?
Alors, ces artistes, ils furent à la fois, il y eut des peintres, il y eut des sculpteurs, il ne faut pas l'oublier, même si les plus célèbres sont bien sûr les peintres. Ils ont souvent, ils occupent la première place dans l'histoire de la peinture moderne, donc la première place pendant la première moitié du XXe siècle, ce sont par exemple Subeyron, arrivé en France en 1919, qui étudia à l'école des Beaux-Arts et qui eut à cœur justement de transposer ce système des Beaux-Arts en Chine. Et c'était ce genre de personnalité qui souhaitait embrasser la totalité de la tradition occidentale depuis la sculpture grecque jusqu'au XIXe siècle. Et cela explique en partie pourquoi il attachait autant d'importance à l'étude de l'antique, à la compréhension de la figure humaine dans son réalisme, et il a été finalement le père de cette école réaliste chinoise qui a dominé le XXe siècle et qui est toujours aujourd'hui très importante, je pense, pour comprendre l'art contemporain chinois.
Alors, vous présentez dans cette exposition quelques œuvres de l'exposition qui a eu lieu au Jeu de Paume en 1933. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
L'exposition qui a eu lieu en 1933 au Jeu de Paume est la plus importante exposition d'art contemporain chinois en France de l'entre-deux-guerres. Donc, il y a eu près de 200 peintures d'art contemporain, créé en 1932 pour 1933, vraiment l'art très contemporain de l'époque, présenté au Jeu de Paume. C'était intéressant puisqu'on avait un commissariat, qui est un commissariat franco-chinois, avec le directeur du musée du Jeu de Paume, André Dezarroy, et Subeyron, qui était lui-même donc un jeune artiste formé en France à peine une dizaine d'années auparavant, et qui revenait cette fois en tant que commissaire, c'est-à-dire presque en tant qu'ambassadeur de l'art contemporain chinois. Alors, ces œuvres, ce sont les toutes premières œuvres d'art contemporain qui ont été acquises par l'État français pour constituer une collection d'art contemporain chinois. Aujourd'hui, nous avons la chance de les redécouvrir, puisqu'elles ont été, elles n'ont pas été exposées quasiment depuis cette époque. Et on s'aperçoit que ces œuvres étaient encore des œuvres très traditionnelles par certains aspects, peintes à l'encre, sur papier, dans des formats qui sont ceux de la peinture chinoise traditionnelle. Mais il ne faut pas s'y tromper. Nombre de ces artistes avaient fait des séjours au Japon ou fait des séjours en Europe comme Subeyron, et ils étaient en train d'inventer une forme d'art mixte qui intégrait de nombreuses composantes de la peinture occidentale.
Alors j'avoue que pour un œil de néophyte, les œuvres sur papier dont vous parlez des années 30 ne diffèrent pas forcément de la peinture chinoise traditionnelle. Alors qu'est-ce qu'il faut aller chercher ? Qu'est-ce qu'il faut vraiment voir pour y déceler la modernité ?
Alors, évidemment, mesurer la modernité, c'est toujours une question de rupture vis-à-vis de la tradition. Et en l'occurrence, certains artistes, comme par exemple un paysage de Gao Qifeng, qui est un paysage où la lumière a une très grande importance. On a presque quelque chose comme un clair-obscur. Et cela est dû à tout son travail pendant sa période japonaise, où il était en contact avec beaucoup d'artistes japonais, mais aussi d'œuvres occidentales, et il a essayé d'introduire ces effets presque luministes dans la peinture chinoise. Cela a été, par exemple, complètement neuf. On a aussi une œuvre de Subeyron qui comprend un tout petit personnage, et quand on s'approche, on s'aperçoit que c'est un autoportrait réaliste de Subeyron, réalisé à l'encre, et là on a un détournement complet des moyens de la peinture traditionnelle vers une œuvre qui est un autoportrait, et presque un autoportrait engagé, puisque l'artiste et commissaire d'exposition présentait une œuvre avec un poème qui faisait allusion aux événements très contemporains de l'époque, à savoir la bataille de Shanghai et l'arrivée des armées japonaises dans cette région de la Chine.
Alors une vraie rupture aussi pour ces peintres chinois, c'est peindre d'après nature, parce que ça ne se faisait pas, et puis peindre des nus.
Alors ce sont deux importantes ruptures qui vont être introduites par les peintres de retour d'Europe et de retour de Paris, de vouloir apprendre à leurs étudiants chinois à peindre en plein air et à peindre d'après modèles vivants. Alors l'une de ces figures, c'est Liu Haisu, à Shanghai, qui introduit ces deux nouveautés. Et bien sûr, l'une d'elles va susciter la polémique, c'est l'introduction des modèles vivants dans ses cours. Cela va donner lieu à une campagne de presse au cours de laquelle l'artiste va défendre cette méthode, mais il a été lui-même à deux doigts de l'interdiction et de la fermeture de son académie, et finalement il n'a dû la survie de son institution qu'au fait que l'instabilité politique était telle à l'époque que les personnes qui avaient pris les décisions furent vite balayées de la scène politique de Shanghai.
Est-ce que ça veut dire que ça a été un petit peu un combat pour eux à leur retour de Paris pour essayer d'imposer ce métissage Orient-Occident ?
Il est sûr qu'au moment où ces artistes reviennent en Chine, ils représentent à peine 1% de la scène artistique. Alors ils arrivent, ils créent des œuvres à l'huile, réalistes, avec des sujets neufs comme le nu, comme le paysage en plein air. Cela est extrêmement radical. On peut dire qu'au départ, ce sont des artistes sans public, en tout cas sans public familier de leurs œuvres, et certainement sans collectionneurs. Donc on a affaire à vraiment une petite fraction d'artistes persuadés de l'importance de l'introduction de l'art occidental, soutenus par une partie de ces penseurs qui essayent de réformer l'éducation chinoise, mais pour l'instant c'est toujours une petite frange très isolée.
Alors on a parlé de la réception de cet art franco-chinois presque en Chine, mais on n'a pas parlé de la réaction du public parisien à cette exposition au Jeu de Paume en 1933. Qu'est-ce qu'en ont pensé les Parisiens ?
Alors, dans un but pédagogique, quelques œuvres plus anciennes avaient été introduites dans la première partie de l'exposition. Alors, évidemment, cela n'a pas manqué de susciter quelques réactions, mais qui sont des réactions très habituelles, de dire que on préfère l'art ancien, on préfère les canons de la peinture classique. Je crois que cela aurait pu être la même chose avec une exposition d'art occidental. À côté de cela, on se rend compte qu'il y a eu une très bonne presse pour cette exposition, que les grandes plumes du moment comme Camille Mauclair ont écrit des choses très intéressantes, soulignant quelques personnalités marquantes, dont celle de Subéron. Mais je crois que le plus important, c'est la réaction d'une lucidité extrême de Paul Valéry, qui décrit la situation des artistes, des jeunes artistes chinois. Il dit tout d'abord que ces jeunes artistes sont en possession de deux passés, le leur et le nôtre, et que cela les met dans une situation très complexe. Ils sont à la croisée des chemins, ils ont le choix entre deux manières de voir, l'une qui est héritée de toutes les traditions chinoises, perspective aérienne, genre bien établi comme le paysage, et de l'autre, toute la tradition occidentale, sa perspective, ses conventions réalistes dans la représentation du corps dans ses proportions. Et cette situation décrite par Paul Valéry, elle est vraiment, je pense, extrêmement intéressante et aussi extrêmement actuelle, puisqu'il décrit finalement une situation dans laquelle les cultures et les civilisations se rapprochent, ce qui crée bien sûr des chocs, mais aussi des positions de fusionnement possibles.
Et d'ailleurs, pour expliquer tout ça, il dit qu'il faudrait imaginer un artiste du Moyen-Âge découvrant l'art grec. Et là, je trouve que c'est extrêmement imagé, que pour des Occidentaux, ça peut peut-être donner une idée de l'état d'esprit avec lequel ces jeunes artistes chinois ont pris le bateau pour Marseille.
Alors oui, c'est très intéressant puisque Paul Valéry souligne un écart dans le temps. Effectivement, ce qui sépare les jeunes artistes chinois du début du XXe siècle de la scène parisienne, ce n'est pas seulement quelques semaines de bateau, c'est aussi un écart culturel considérable et pourquoi pas aussi un écart chronologique, comme l'écrit Valéry.
Alors, est-ce que les techniques n'ont pas joué un rôle très important pour le détachement de la tradition? Parce que, par exemple, peindre à l'huile, quand on peint à l'huile, on n'a peut-être pas envie de faire la même chose que quand on peint à l'encre.
Cela a certainement été fondamental. Tout d'abord, il y avait cette volonté d'acquérir ce métier, d'acquérir cette technique pour pouvoir la transmettre. Donc, de retour en Chine, ces artistes créent des académies des beaux-arts sur le mode occidental et ils transmettent ce métier. Mais une fois que eux-mêmes ont la tentation très forte de revenir à la peinture chinoise, eh bien, ils vont le faire d'une manière complètement différente, puisqu'ils sont habitués à travailler au crayon, à concevoir une figure dans l'espace d'une manière complètement différente, si bien que la peinture chinoise qu'ils vont pratiquer, eh bien, va être une réinvention sur des bases parfois très occidentales. Et cela, je pense, peut se voir dans l'exposition à travers quelques confrontations, la confrontation entre Subeyron et son maître naturaliste Danian Bouvray, ou confrontation entre Lin Fanmian et Georges Rouault, qui était pour lui une figure très importante.
Quels étaient d'ailleurs les artistes qui les influençaient le plus? J'ai cru déceler Matisse, mais effectivement, il y a Rouault.
Alors, Rouault était certainement très important parce que il y avait chez le Rouault d'une certaine période l'utilisation du cerne noir qui, bien sûr, pour un peintre chinois, évoquait tout de suite le trait de contour à la chinoise. Et puis il y avait aussi un certain nombre d'expérimentations techniques très novatrices chez Rouault entre la gouache, l'aquarelle, l'huile, et qui étaient aussi très fécondes pour ces artistes chinois qui vont essayer d'introduire dans la peinture à l'encre certains aspects de la peinture à l'huile ou du pastel ou de l'aquarelle.
La sculpture n'a pas le même rôle en Chine qu'en Europe.
Alors, les premiers artistes qui sont venus apprendre la sculpture avaient vraiment conscience d'être des inventeurs et d'être les premiers à revendiquer le statut d'artiste en tant que sculpteur. Alors, bien sûr, l'histoire de la sculpture en Chine, elle est fort longue. On connaît tous ces chefs-d'œuvre de la période des Tang, par exemple, chefs-d'œuvre de l'art bouddhique, ou bien les grands sanctuaires des Wei du Nord, comme Yungang. Mais il s'agissait quand même principalement d'une sculpture anonyme, votive. Et donc, pour la première fois, on va avoir ces artistes qui revendiquent un statut. Et puis, au même moment, il faut voir qu'avec cette ville qui se modernise en Chine et qui se conçoit à l'occidental, on va avoir l'irruption de la sculpture sur les monuments et sur les places publiques. Et cela n'existait pas du tout dans la ville ancienne, où peut-être la calligraphie avait beaucoup de place, mais en tout cas certainement pas la sculpture.
Alors, ce n'est peut-être pas un hasard si Zhao Wuqi et Chu Tae-Chun sont devenus les maîtres de l'abstraction chinoise et ces deux artistes ne sont pas retournés en Chine pour faire leur carrière d'artiste, alors que les autres sont retournés en Chine. Moi, je me suis dit qu'il y avait peut-être là l'explication de ce goût qui les a emmenés vers l'abstraction, le fait de rester en Europe.
Alors, Chu Tae-Chun et Zhao Wuqi appartiennent à la deuxième génération. Ils ont été formés dans ces nouvelles institutions chinoises, notamment l'école créée par Lin Fanmian dans le sud de la Chine. Donc, ils apprennent très jeunes à peindre à l'huile, ils apprennent la manière occidentale, et bien sûr, ils sont aussi imprégnés par la manière chinoise. Ils arrivent en Europe dans les pas, sur les traces de leurs aînés. Mais très vite, ils vont être en contact avec la jeune peinture. Et en quelques années pour Zhao Wuqi, en quelques mois pour Chu Tae-Chun, ils vont s'orienter vers l'abstraction. Je pense que dans ces années, ces jeunes artistes n'imaginaient pas que la rupture politique, qui était la création, la fondation de la République populaire, allait les amener à rester en France pendant plus de 25 ans sans retourner dans leur pays. Mais néanmoins, c'est ce qui est arrivé. Donc je pense que le passage à l'abstraction, c'était tout d'abord la réceptivité extrême de jeunes artistes qui, dès leur apprentissage, avaient appris la peinture à la manière occidentale, et du coup le choc esthétique et l'adoption vraiment spontanée d'une peinture sous l'influence de Nicolas de Staël pour Jude Chun ou de Paul Klee parmi d'autres artistes pour Zaouki.
Et on le voit très bien d'ailleurs dans l'exposition, même avec juste quelques œuvres, on voit aussi la première période de Zaouki qui n'est pas du tout abstraite, et ça c'est intéressant de faire le parallèle. Alors vous avez souhaité justement présenter au Parc Monceau 6 artistes chinois vivants aujourd'hui à Paris. Est-ce que c'est pour montrer que le pont existe toujours entre Paris et la Chine en termes de création artistique?
Alors, il y a eu évidemment 3 ou même 4 générations d'artistes chinois actifs en France. Et ma foi, il faut bien reconnaître que le musée Tchernouski, même en poussant les murs au maximum, n'aurait pas pu accueillir tous ces artistes. Mais il était pour nous vraiment essentiel de montrer qu'aujourd'hui, nous avions une génération d'artistes arrivés en France dans les années 80, pour la plupart, certains un peu avant, et qui est une génération extrêmement importante pour l'art français, pour l'art chinois et pour l'art contemporain en général. Alors, les conditions de création sont complètement différentes. Les relations entre la Chine et la France aussi, puisque les deux pays se sont rapprochés et qu'on peut aujourd'hui créer une œuvre qui soit véritablement mixte, pensée en France, achevée en Chine, achevée en Chine et exposé en France, et c'est le cas de certaines œuvres qui sont présentées au Parc Monceau.
On peut citer les artistes que vous présentez?
Bien sûr. Alors, parmi ces artistes, nous avons des personnes qui sont arrivées plus tôt en France. Je pense au sculpteur Chan Kaiyuan, qui a eu un travail qui s'est orienté depuis les années 80 autour de la figure du poulet, auquel il donne une interprétation anthropomorphique très à la fois humoristique, mais aussi parfois tragique, en tout cas toujours touchante. Et je pense que c'est un travail qui le place en amont d'une grande partie de l'art contemporain qui est apparu en Chine dans les années 90 avec beaucoup de travaux inspirés par la figure animale. Et puis il y a aussi deux artistes, Wang Keping et Ma Decheng, qui firent partie du groupe des Étoiles, donc un groupe très important qui, à la fin des années 70 et au début des années 80, a, avec beaucoup de courage, revendiqué une grande liberté formelle, une grande liberté d'expression pour l'art en Chine, et qui, ces deux artistes, l'un sculpteur, Wang Keping, l'autre graveur, poète et peintre, Ma Decheng, ont continué chacun leur voie en France. Et Wang Keping, qui travaille principalement le bois et qui s'inspire des formes naturelles du bois dans ses œuvres, a créé des œuvres sur place au Parc Monceau. C'est une œuvre qu'on espérait au départ pouvoir réaliser à partir des coupes de bois de l'année du Parc Monceau. Finalement, nous avons travaillé avec les bûcherons du bois de Vincennes, mais là, on a vraiment travaillé avec des matériaux parisiens, en l'occurrence.
Alors, est-ce qu'on pourrait dire en conclusion que la rencontre entre l'art chinois et l'art occidental a été fructueuse?
Alors, je pense qu'elle a été, dans ses premiers temps, elle a suscité, dans ses premiers temps, des problèmes de réception complexes, le choc, la difficulté d'acculturation. Elle n'était pas seulement pour ces artistes qui apprenaient une technique nouvelle, elles étaient aussi pour leur public. Mais je crois que ces artistes, ils ont été de véritables passeurs. Non seulement ils ont essayé dans leur propre vie et dans leur propre création de faire arriver cette fusion des arts, mais ils ont aussi été les promoteurs infatigables des arts occidentaux en Chine, art classique et art moderne et contemporain. Je pense par exemple à Liu Raisu qui, en direct au moment où il vivait à Paris, écrivait des chroniques pour les journaux de Shanghai, chroniques dans lesquelles il défendait l'art de Derain, l'art de Matisse, et qui permettaient quasiment à leurs contemporains chinois de comprendre et d'appréhender cet art tellement encore étranger pour eux.
Donc de vrais échanges. Éric Lefebvre, merci.